Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss.
Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee.
Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, au live mensuel exclusif avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance.
Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone.
Bonjour à toutes et à tous. Salut Laurent.
Salut Jérémy.
Aujourd'hui, on discute d'animation, de science-fiction et de transmission avec Hugo. Bienvenue. Mais avant de passer à l'interview du jour, nous aimerions remercier nos nouveaux contributeurs et contributrices sur Patreon et Tipeee. Comme d'hab, un immense merci à Roman Mendes, Tania Gandreau, Annelise Bouillet, David Emmanuel, Alice Lagarde, Anne-Bénédicte Schwebel, Étienne Pipard, Alexandrie Delobel, Emeline Bini, Aurélie Boussuge, Louise L, Florence Flotte, Nina Chassetuyer, Élise Angelbert, Véro Randriana, Béatrice Ménuel, Johan Chabuel, Kératine Bernard, Anouk Vignot, Marion Couder de Massy, Benoît Aupois, Pétula Rocher, Sylvie Delattre, Nelly Monnier, Laurent Duvou, Lou Bimi, Julie Bandy, Flore Cousserand, Mélanie Zézima et Grieving Cruise. Un grand merci à vous tous.
Ça en fait du monde.
Grave. Merci. Si vous désirez, vous qui nous écoutez et qui ne nous soutenez pas encore, si vous voulez nous aider à développer Sens Créatif et accéder aux contreparties réservées aux membres du Patate Club, rendez-vous sur www.patreon.com/senscreatifpodcast ou sur Tipeee. Ça s'écrit tipeee3e.com/sens-creatif-podcast. Vous pouvez aussi retrouver les liens dans les notes de cet épisode ou dans le chat sur Twitch. Et aujourd'hui, nous sommes très très heureux de recevoir un artiste complet, un homme aux multiples casquettes. On pourrait résumer ses activités par le mot dessinateur, mais si vous êtes un chouï exhaustif, on pourrait rajouter les mots animateur, réalisateur, illustrateur, auteur de BD, éditeur, et puis je suis sûr que j'en oublie. Bref, tout ça, mais pas que, c'est Hugo, bienvenue. Bonjour Hugo.
Bonjour, merci de me recevoir.
Eh ben, merci à toi. Venu.
On est très très content de te recevoir aujourd'hui. Tu as de nombreuses fois été réclamé par nos auditeurs et nous y voilà enfin en ce 2 mai, on peut papoter avec toi. Ensemble, on va plonger dans le vaste univers qui est le tien, un univers de science-fiction, de dystopie, d'arc-en-ciel, de lunettes, de robots et de beaucoup de dessins. Et ça tombe bien, sur Sens Créatif, on aime tout ça et on va s'en donner à cœur joie. Ça va, c'est une bonne description. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va?
Ouais, ça a l'air bien, ouais.
Moi, je te qualifierais de Jack of all trades. Tu vois, le couteau suisse, quoi. Vraiment capable d'aller sur finalement plein de postes différents. Tu te vois comment, Hugo, toi?
Je vais là où ça m'amuse. En général, j'essaie vraiment de suivre mes envies et de me dire, ah tiens, si je faisais ça, voilà. Quand j'ai envie de faire un truc, je me pose la question de est-ce que c'est possible? Comment je peux le faire? J'essaye d'apprendre un tout petit peu ce qui voilà le de voir de quoi est constitué le métier et puis si c'est dans mes cordes, si je sens que je peux servir à quelque chose ou voilà je le fais en général, mais j'aime bien aller. C'est en fait, une fois il y avait un professeur quand j'étais à l'ESAT à Roubaix qui m'avait dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, et je lui avais dit j'aimerais être animateur, réalisateur et puis illustrateur. Il m'avait dit mais Hugo, dans la vie on peut pas tout faire,
il faut choisir.
Et ça m'avait marqué. Je me suis dit, je vais choisir de tout faire. Voilà. Tout ce que j'ai envie de faire. Voilà.
Et bim. Ouais. Voilà. Ouais, mais c'est un truc très français, hein, j'ai l'impression, de vouloir se mettre dans des petites cases comme ça, c'est chiant.
Ouais. Et...
Toi, t'as pas mal bougé, donc du coup, t'as pu un peu voir à travers le monde.
Ouais, et puis surtout, en fait, quand on est bon dans une pratique, quelle qu'elle soit, quand on a compris, quand on a passé la superficialité du médium ou de notre métier, en fait, on accède à une sorte de réflexion qui est applicable sur d'autres métiers. Et le dessin est un métier qui informe beaucoup sur beaucoup de choses, sur l'écriture, même sur l'économie, sur beaucoup de choses, parce que ça demande une assaise très particulière pour arriver à un certain niveau. Et c'est vrai que tout ce que m'a appris le dessin, maintenant, je vois comment je peux le répercuter dans d'autres pratiques. Et surtout, en fait, moi, je suis devenu producteur essentiellement parce qu'en fait, m'arrivaient des projets que je pouvais pas faire moi. Et plutôt que de dire, bah non, je vais pas les faire, bah, j'ai décidé de monter une structure qui me permettait de basculer sur des gens dont j'aimais le travail, les travaux que je pouvais pas faire moi. Et voilà. En fait, du coup, ça, les choses, plutôt que de dire, ah bah non, je vais pas utiliser cette énergie qui arrive sur moi, j'essaie de la prendre et de la redistribuer, et de perdre le minimum d'énergie.
Ce que t'appelles structure, c'est à la fois réaliste et Remembers,
Ouais.
Donc on va rappeler, réaliste, c'est ta maison d'édition, et Remembers, ouais, c'est ton studio d'animation.
Ouais, c'est ma société de production, et donc ça, c'est Remembers Production, c'est la boîte, oui, de prod, et puis une deuxième entité Remembers qui est le studio, qui est plus un truc de fabrication pure. Voilà. La production, c'est plus, ça me permet de plus gérer les droits, le studio de la pure fabrication.
Donc t'as créé ta famille graphique, on va dire, ou ta famille créative plus précisément.
Ouais, en tout cas tous les gens dont j'estime qu'ils ont un sens proche du mien comment raconter des histoires, et surtout de qualité à la fois technique et d'ambiance, de récit. On a essayé de se fédérer et pour créer une, je sais pas comment dire, ouais, une famille, et des standards de qualité, quoi.
Ça doit être hyper grisant d'être entouré de personnes talentueuses, de personnes que t'admires. Tu as créé toi-même ton environnement pour te stimuler.
Ouais, c'est hyper stimulant, et puis ça permet des fois, même quand on est bloqué, de voir que les autres, ils avancent aussi, d'avoir des discussions intéressantes tous les jours aussi, c'est quand même très bien, quoi. Parce que dans notre métier, ouais, surtout en illustration, c'est un métier très, ou en bande dessinée, c'est un métier très solitaire. Et même, voilà, quand on est bloqué sur quelque chose, même techniquement, de pouvoir descendre et dire comment tu ferais ça, en 3 secondes, il y a quelqu'un qui te trouve une solution à laquelle toi, tu n'avais pas pensé. Et c'est valable pour tout le monde ici, c'est que on va vite, quoi. Ça permet de sauter des étapes, et puis des fois de prendre confiance quand tu n'es pas au top de ta forme. Voilà. Ça peut aussi avoir un deuxième truc qui peut être dangereux, c'est que vu qu'ils sont très, très forts. Ouais, c'est qu'ils sont tous très, très forts ici, et des fois, je me dis, putain, qu'est-ce que je fais là? c'est ça. Mais en tout cas, tu peux pas t'endormir. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est que t'as pas le choix. Tu peux pas t'endormir parce que les autres avancent.
De l'importance de bien s'entourer. Alors, tout ça, c'est toi aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait Hugo Bienvenu? Genre, d'où vient-il? Comment en est-il arrivé là? Et donc, du coup, si tu veux bien, avant d'arriver à aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu de ton parcours et de ton arrière-plan personnel? Je sais que tu as beaucoup voyagé, ouais, notamment. C'est un peu tout ce qui t'a façonné, tout ce qui a façonné ton univers. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça?
Et puis, qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin?
Oui, c'est, alors, c'est la question, c'est la question un peu officielle. Mais on a toujours l'impression, quand on voit ton taf, que tu as toujours
la motivation.
Toujours la motivation. Ouais. Mais peut-être qu'on se trompe, je sais pas.
Bah, vous me rappellerez cette deuxième question.
Ça marche.
Si je l'oublie. Grosso modo, moi, je suis le fils d'une graphiste. Elle était graphiste chez Playboy, ma mère, quand je suis né. Et mon père était diplomate. Enfin, il finissait ses études. Et en fait, il avait un cursus de philosophie à la base. Et puis après, il est devenu diplomate. Mais donc, je suis un peu la synthèse de mes deux parents. Ma mère graphiste et mon père, on va dire, philosophe. Et c'est eux qui m'ont donné, je crois, ce qui constitue mon travail aujourd'hui. Et en fait, après, moi, j'ai grandi au Guatemala, au Tchad et au Mexique. Et c'est ce qui a façonné, je pense, mon imaginaire et ma manière de penser les choses et d'avoir un regard sur le monde qui est particulier, puisque j'étais toujours l'étranger là où j'arrivais. Et je suis arrivé en France, moi, quand j'avais 15 ans. Donc, la France, pour moi, c'était un autre étranger. Et j'ai toujours gardé depuis ça cette espèce de regard en biais sur le monde, qui est pas le regard d'un insider, mais plutôt le regard d'un outsider qui voit comment fonctionne un système et de quoi est fait le système. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Je pense que c'est pour ça que ma BD Préférence Système s'appelle Préférence Système. Je me suis toujours dit, ok, comment, parce que je débarque dans un nouveau système, dans un nouveau monde, de quoi est fait ce monde, quelles sont les interactions sociales, comment les gens interagissent, et après une phase d'observation, comment moi je peux m'intégrer et participer à ce monde, quoi. Voilà.
C'est drôle, genre l'outsider qui observe sa propre culture au final, vu que t'es français, si je me trompe pas.
Ouais.
C'est drôle d'observer sa propre culture de l'extérieur.
C'est vrai que moi je connaissais la France que l'été, quoi, que quand il voilà. Et je connaissais principalement je connaissais la Bourgogne parce que c'est là d'où viennent mes grands-parents et c'est d'ailleurs pour ça que dans toutes mes BD il y a des scènes à Vézelay et des, c'est parce que c'est les endroits que je connais depuis que je suis tout petit et voilà et en tout cas ça m'a nourri parce que surtout le Mexique parce que c'est le moment un peu où notre identité se façonne indépendamment de nos parents et où les couleurs du Mexique m'ont beaucoup plu. Enfin, il y avait des pubs Coca-Cola un peu partout, il y avait des pubs Marlboro.
Ouais, c'est de la pop culture aussi, ouais.
Ouais, voilà. Et cette esthétique américaine des années 50-60 qui était je le dis souvent mais qui proposait une idée de
on retrouve dans ton travail, ouais.
Ouais, d'un je sais pas comment dire mais d'un il y avait un idéal de vie dans ces images et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours parlé et c'est pas que j'aspire à cet idéal totalement parce qu'il est fait de plein de choses mais justement en fait maintenant ce que je fais c'est que je reproduis un peu ces images idéales en les faisant grincer en les faisant résonner avec des choses qui ne sont pas idéales des choses qui sont réelles et en fait j'ai fait percuter l'idéal et la réalité et je vois ce que ça génère comme et du coup je le fais dans la science-fiction pour montrer justement nos idéaux aujourd'hui avec tout ce qu'on développe de technologie de vivre ensemble et tout en tirant les lignes de ce de quoi est constituée notre réalité j'essaie de voir vers quoi elles tendent quelles sociétés elles peuvent créer et de les remettre en question quoi.
Ouais. La science-fiction, bon voilà, elle fait partie de ton taf. On pourrait revenir un peu sur ton parcours, etc. Mais tu vois, tu parles de science-fiction et il y a bien un thème qui traverse aussi tout ton boulot. Tu utilises la science-fiction, mais pour parler de transmission. Mmh. Et ce thème traverse toute ton œuvre. Et je t'ai même entendu dire dans une autre interview, transmettre, c'est résister. Mmh. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi?
Du coup, ça c'est la réponse à la deuxième question que vous m'avez posée tout à l'heure. C'est ce qui me fait me lever le matin. c'est ce truc de.
Tu as bien rebondi.
De transmettre et de communiquer. Et en fait, transmettre, c'est résister, c'est faire résister. En fait, la transmission, c'est faire résister des choses dans le temps. Et moi, c'est en tout cas, je pense qu'on est tous les trois dans ce champ-là. Donc, quand on a commencé, quand j'étais jeune, moi, ce que je me disais, c'est vers 8-10 ans, tu te rends compte que. Tu vas disparaître et que qu'est-ce qui va rester de ton passage sur Terre et du passage peut-être à plus long terme de l'humanité. Et moi, c'est une question qui m'a toujours déprimé, mais qui en même temps m'a toujours fait exactement me lever le matin. C'est je vais essayer de laisser une trace dans le sable, quelle qu'elle soit, et histoire de rester un petit peu plus longtemps que juste les quelques années qui nous sont allouées sur cette Terre. Après ça évolue. Justement, j'essaie de traiter la transmission sous plusieurs angles parce qu'en fait à chaque fois j'en découvre des nouveaux. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a dans la transmission, même si ça se fait au niveau individuel, c'est avant tout il y a un truc très collectif dans la transmission. C'est de partager une expérience et un savoir pour qu'il bénéficie à l'autre. Et en fait, c'est ça être un être humain. C'est parce que nous on a un prisme de 45 degrés ou allez 80. Ce qui fait nous des humains, c'est notre vision parcellaire du monde, et donc c'est de voir l'expérience des autres qui nous augmente, et c'est pour ça que moi je pense que l'homme a soif de récits et d'images des autres et d'images du monde, c'est pour augmenter sa vision du monde et pour le voir de manière la plus totale possible, et je pense qu'on a de la chance de vivre c'est à la fois une grande chance et quelque chose de terrible, mais c'est parce qu'il faut évidemment structurer tout ça. Mais par rapport à moi, quand je suis né dans les années 90, on avait beaucoup de mal à avoir accès à des images et à des œuvres qui venaient du Japon, par exemple, et on payait très cher.
Des VHS,
des VHS, des livres, des machins. Alors bon, aujourd'hui, on peut voir ce que fait, quelqu'un à l'autre bout du monde. Donc ça, et c'est ça qui est intéressant dans la science-fiction, c'est toujours montrer il y a ce pendant qui est génial, mais regardez ce que le pendant négatif, parce qu'une chose vient toujours avec des pendants, regardez ce que peut générer le pendant négatif de cette chose géniale.
Ouais, complètement. Mais c'est comme le fait, tu vois, de à une certaine époque, quoi, tu partais en voyage et plus t'allais loin, plus t'étais coupé de tout. Et en réalité, maintenant, avec le Wi-Fi qui est absolument omniprésent partout, tu as même les traducteurs d'une langue à l'autre et en temps réel, en fait, tu peux parler avec les gens. Et ça, c'est des changements qui sont un petit peu irrémédiables, quoi. C'est-à-dire qu'on pourra pas revenir en arrière de ces évolutions là, quoi, justement.
Ouais. Et pour moi, le grand danger de ça, pour moi, qui suis quelqu'un qui aime les particularités culturelles, qui aime justement qu'au Mexique, bah, d'être dans un endroit où l'architecture est différente, la manière de vivre est différente, c'est ça qu'on aime quand on se dépayser, quand on va ailleurs, et que les choses soient différentes, c'est une qualité. Et c'est vrai que dans l'uniformisation, maintenant, où tu vas à peu près n'importe où, tu sais que tu peux manger à McDonald's, que tu peux aller au Starbucks, enfin voilà, ça enlève un peu de la substance. Moi, je suis contre l'uniformisation du monde. Je trouve que ce serait dommage parce que l'altérité et l'autre, c'est encore une fois quelqu'un qui peut t'augmenter par sa différence et c'est dommage de, enfin, l'uniformisation pour moi est un grand danger de l'humanité.
Ouais, complètement. Dans cette idée de transmission et donc de résistance, en fait, tu as déjà dit également que comme il y avait une profusion maintenant de production, justement, qu'il n'y avait pas à l'époque dont tu parlais, c'est-à-dire que tout est déjà noyé avant même que ça soit qu'on puisse l'atteindre, en fait.
Ouais.
Ouais, bah du coup, bah en fait, c'est souvent je compare ça à la carte du restaurant. Quand il y a beaucoup trop de plats au resto, tu sais pas quoi choisir et souvent c'est un mauvais signe. Et en fait le cinéma, les librairies, c'est un peu la même chose aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de choses à la carte que tu sais plus déjà ce que tu veux manger et puis les choses aussi du coup sont en compétition et puis ils se partagent un gâteau qui a pas grandi parce que on va dire que les lecteurs, les spectateurs ont, voilà, on est, même si tous les jours on gagne des millions d'humains sur Terre, voilà, il y a pas non plus, ça va pas aussi vite que la création de contenu. Avant, il y avait des producteurs, des éditeurs dont le rôle était justement de faire le tamis, de dire bon, ça va résister, ça doit exister, c'est machin. Et le travail, aujourd'hui, à part, il y a quelques éditeurs, il y a quelques producteurs qui le font, mais c'est vrai qu'il y a, et aussi il y a eu un deuxième phénomène qui s'est opéré et je crois, moi j'ai fait partie de ce phénomène là quand j'ai créé ma première société de production, j'étais à peu près persuadé qu'il fallait que les niches étaient importantes et qu'il fallait aussi produire pour des niches, donc je veux pas dire que c'est dire j'ai participé aussi à ça, mais le problème des niches, c'est que ben elles ont tendance à communiquer sur elle-même et d'émettre des messages à elle-même et alors que en fait j'en reviens un peu, si j'aime les grands récits universels parce qu'en fait ils s'adressent à tout le monde et c'est quelque chose que je dis dans Préférence Système, mais le récit universel part du particulier, part de la précision, de quelque chose de très précis, de très intime. Et c'est ça qui en fait est universel, parce qu'on est tous constitués de ces choses très précises. Et ce qui est bizarre, c'est que maintenant, en fait, on a retourné le truc. On part de l'universel pour aller vers quelque chose de très exclusif et du coup de très clivant et qu'on ne peut pas partager. Et donc ça, c'est une question sur l'époque qui me chagrine pas mal. Ouais.
On rappelle un petit
Qu'est-ce que t'en penses justement ce côté un peu plus. Pardon.
Non, vas-y. Maintenant, je voulais juste rappeler de quoi parlait Préférence Système, en fait, tout simplement. C'est en fait ce récit nous emmène dans un futur dystopique où on a un souci par rapport aux archives, c'est-à-dire vraiment les archives numériques qui ont pris une ampleur comme tu disais. Hein, c'est un petit peu le risque que ça arrive. Hein. Et on suit en fait l'histoire d'un archiviste qui décide lui de son côté de sauver des pièces créatives, des pièces d'art pour pouvoir les transmettre plus tard.
2001, l'Odyssée de l'espace.
Voilà, par exemple. Et on est devant justement cette problématique de se dire à un moment, il y aura tellement de produits qu'on ne saura plus les archiver, on ne saura plus les différencier. Il faudra faire du tri parce que, comme tu disais, on va arriver à un niveau de stockage qui empêchera peut-être de tout garder et surtout de tout transmettre.
Ouais, et en fait, on voit là, l'énergie commence à coûter très cher aussi et puis les centres de stockage, c'est hyper énergivore. Et d'ailleurs, il y a eu un truc un peu. On dit pas combien ça pèse, combien ça coûte un mail envoyé. Et à l'époque, on envoyait une lettre. Bon, on savait que ça représentait tant de grammes de papier et tout. Et on voit que finalement, un mail est beaucoup plus polluant qu'une lettre, quoi. Et puis on voit les coupes budgétaires, elles se font surtout sur la culture dans les États, et sauf que les États sont les garants de notre mémoire physique, enfin de notre mémoire patrimoniale. Et par exemple, on n'a qu'à aller à la Bibliothèque nationale et leur poser des questions sur quels sont leurs coûts de préservation de l'existant, et on voit que c'est très compliqué, ça coûte énormément d'argent, et s'il y a plus d'argent, c'est la première chose qui part. Donc voilà. Et surtout, moi, c'est pour ça que je me suis dit préférence système. C'est pour ça que je suis allé sur le récit, c'est que je me suis dit tout le monde a déjà expérimenté cet acte de devoir enlever des choses de son ordi parce qu'on n'avait plus de place et
qu'il
fallait que. Et donc, on a tous dans notre chair perdu des photos qu'on regrette, des films qu'on aurait bien aimé garder, des machins, genre ça.
Et ça m'est arrivé cette semaine.
Et du coup, ça pour moi c'était un bon signe. C'est quand ça touche à la fois à l'intime et au général, c'est que t'as quelque chose, quoi. Tu peux traiter la question. Mais c'est vrai que souvent, et c'est pour ça qu'il faut écouter son inconscient. Ça, c'est des choses. En tout cas, cette idée-là, c'était quelque chose de très intime. C'est quelque chose qui m'est venu. Je me suis dit, et c'était dans le train, comme souvent, c'est dans les zones, c'est dans les moments où tu travailles pas. Où j'ai vu des centaines de milliers de pneus sur le bord de la route, et je me suis dit et je sais pas, il y avait des entrepôts et tout. Je me suis dit, mais c'est fou ce qu'on stocke, c'est fou ce qu'on crée, c'est fou mais où va tout ça. Et je me suis dit, mais c'est marrant parce qu'on parle beaucoup de surproduction
et on stocke du déchet aussi,
ouais, de tout, enfin ouais. Parce que en fait, ouais, les choses génèrent du déchet après. Et je me suis dit, c'est fou parce qu'on quand même on est des machines à fabriquer, et où va tout ça, quoi, à quoi ça sert. Et surtout dans une époque où justement la création est ouverte à tout le monde, ce qui est très bien, faut pas non plus confondre expression et avis, quoi. Confondre le fait de donner son avis sur quelque chose et le fait d'exprimer une idée, c'est complètement différent. Une idée, ça se travaille, ça se construit, ça se voilà. Tout n'est pas idée.
Tu peux développer. Ouais, tu peux développer. Ça, je trouve intéressant. La différence justement entre exprimer une idée, son opinion, parce que justement, tu parlais juste avant du fait qu'on arrive dans un monde de plus en plus polarisé et uniformisé, c'est triste. Et c'est intéressant, cette petite nuance que tu rajoutes.
Ouais, une idée, c'est le fruit d'une construction, c'est le fruit d'une réflexion, une opinion, c'est quelque chose qui est fluctuant. Enfin, je veux dire, on peut, selon les agencements d'une époque, d'un moment, elle peut évoluer, elle est assez fragile, alors qu'une idée, c'est sur le, ça se travaille, c'est du long cours, et je sais pas comment dire, mais il faut qu'elle résiste au temps. Une idée, elle doit avoir justement encore une fois une résistance. Et je trouve que des fois là, en ce moment, et même d'ailleurs sur le problème aussi, c'est que des opinions sont relayées dans les médias comme des idées, et c'est pas la même chose. Elles doivent pas être traitées de la même manière, ne serait-ce que dans leur manière d'être répliquées, quoi. Et voilà.
C'est une idée qui est très chère à Sens Créatif, ce qu'on fait ici sur ce podcast. On parle souvent de le fait que la créativité, c'est un processus holistique. C'est que au lieu de, je sais pas, par exemple, on travaille par quelque chose, on est frustré par quelque chose, on a une opinion peut-être forte justement sur quelque chose, au lieu d'aller tout de suite le balancer comme ça sur les réseaux sociaux et s'énerver ou se créer du débat, après c'est important aussi le débat, mais que le fait de le travailler, de créer une œuvre, que ce soit une chanson, une BD, un film, un poème ou je sais pas quoi, mais de le transcender en fait, et ça permet de se relier les uns aux autres, ça permet de créer un dialogue plutôt que quand on est là à se crier les uns sur les autres sans prendre le temps de transformer par la créativité. Ouais. C'est pas la même chose.
C'est notre travail d'humain en fait, de passer au tamis ce qui nous arrive et d'essayer de trouver un sens là-dedans, et le sens met du temps à émerger souvent, et il apparaît sous des formes auxquelles on s'attendait pas, mais c'est ce travail-là qui fait que justement on dépasse le simple constat et le simple énervement. C'est là où on voit les nuances, c'est là où on voit, enfin voilà. Moi, je suis très attaché à la distance. Et justement, pour revenir au travail, ce qu'est notre travail, c'est de, moi, je génère pas d'image si j'ai pas une idée qui sous-tend ça ou une obsession ou machin. C'est le temps de transformation est mystérieux, il faut lui laisser, à part si on génère juste des produits. Si on veut trouver quelque chose de sensible, ça prend du temps, et c'est un temps très mystérieux.
T'as des moments comme ça, charnières un peu dans ta vie, où tu te dis, wow, ça, j'ai besoin de le travailler, parce qu'il y a par exemple ce sujet de la transmission qui est fort chez toi depuis toujours, mais tout le monde n'a pas ça. Comment ça se fait? ou est-ce qu'il y a d'autres moments où justement tu t'es dit punaise, il faut vraiment que je travaille ça créativement, faut que j'en fasse un film, faut que j'en fasse une BD, quelques exemples peut-être.
Ben en fait voilà, la transmission c'est complètement je me suis rendu compte sur Préférence Système quoi, je me suis dit ah c'est marrant parce que Sequan Island ça parle de transmission, peuvent accepter aussi et ça aussi, mais c'était pas un programme quoi, il y avait pas un truc de ah j'adore la transmission, je vais faire non, c'était plus genre bah en fait je me suis rendu compte que c'était un thème qui travaillait en moi naturellement, et je me dis rarement ah ça il faut que j'en parle, et bizarrement comme je me le dis j'y arrive pas, parce qu'en fait ça devient ce que je vous disais un peu là, juste avant, ça devient un sujet d'étude et c'est intentionnel voilà, et l'inconscient fait plus son travail, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert ces dernières années, c'est j'ai découvert vraiment la différence, parce que en production en fait notre travail c'est de réfléchir, c'est de réfléchir à des stratégies tout ça machin, et j'ai découvert que en fait quand on écrivait des histoires il fallait pas réfléchir, il fallait penser. Et il y a deux choses complètement différentes. Voilà.
Là, c'est très juste ce que tu dis. D'ailleurs tu disais aussi que t'aimais pas trop te documenter, c'est-à-dire que faire des recherches c'est bien parce qu'on pas raconter non plus de la merde, mais que si on se documente beaucoup trop on finit par assécher en fait sa capacité justement créative.
Ouais, parce que tout d'un coup les idées, on voit que les autres ont eu des idées qui sont intéressantes, et du coup c'est compliqué de les utiliser et du coup tu te dis ah, mais en même temps bah, bref, tu rentres dans une sorte de dédale où tu dis ça, est-ce que j'ai le droit de le toucher, est-ce que j'ai pas le droit, et puis aussi il y a un moment où bah tu connais trop le sujet, et la part de mystère dans la création est hyper importante, c'est bien de pas savoir de quoi sont faites les choses que tu travailles. Parce que sinon t'es en train de faire du conscient et en fait la zone de conscient du cerveau, on va dire que c'est la surface de ton cerveau, mais le volume de l'intérieur de ton cerveau il est beaucoup plus gros, et ça c'est l'inconscient. Donc en fait c'est réfléchir et penser, c'est réfléchir c'est la surface, et puis penser c'est le volume quoi. Et moi vraiment maintenant je fais vraiment confiance. Et à l'école on nous apprend pas ça, on nous apprend à réfléchir, surtout en école d'art.
Ouais. Concept.
Ouais, et à créer du discours et tout ça machin. Sauf que du coup ça occulte, et il faut toujours pouvoir expliquer ce que tu fais, mais en fait moi les auteurs que j'aime c'est ceux qui sont pas capables de me dire pourquoi ils ont fait et pour moi c'est après, en fait une fois que t'as fait ton truc que tu peux expliquer ça, parce qu'en fait tout d'un coup ça t'a sauté aux yeux, tu t'es dit ah mais mon inconscient a très bien structuré le truc et tout, mais ça vient de zone et il a fait se percuter des choses que toi t'aurais pas pu consciemment aller chercher. Et consciemment en fait t'as tendance, quand tu travailles en conscience, en réfléchissant, t'as plutôt tendance à aller chercher ce qui a déjà été fait ailleurs, à aller voir, à te dire ah lui il a fait ça comme ça, je pourrais faire ça comme ça, alors que si tu laisses ton inconscient faire, il est en train d'aller chercher dans des zones beaucoup plus profondes
que tu maîtrises pas et qui
en fait en plus sont ancestrales. Tu travailles avec la mémoire de l'humanité, alors que sinon tu travailles juste avec ta mémoire personnelle qui est toute petite.
Concrètement, comment, ça paraît une question super bête, mais comment tu fais, parce que il y a ce côté, on entend du lâcher prise, de l'inconscient, mais concrètement quand on veut créer des choses, comment tu fais toi pour juste être dans de l'inconscient? Moi j'ai une image, tu sais, genre un peu type Kaladrexki, ou genre tu sais, y a pas d'intention, mais
tu en fait ton inconscient c'est une sorte de, je sais pas, c'est une sorte de seau qui a pas de fond quoi, je sais pas comment dire. Et en fait le travail c'est tout d'un coup il y a quelque chose qui remonte de ton inconscient de très très bas, il est plein d'air et tout d'un coup je sais pas pourquoi il remonte à la surface de l'eau, et tu te dis ah pourquoi ça s'est remonté, tu t'attends un peu, tu regardes un peu le truc, il y a quelque chose d'autre qui monte, qui se met en relation, tu sais pas, et puis tu regardes pourquoi la relation elle est comme ça, qu'est-ce qui tend ces formes entre elles, qu'est-ce qui crée du ciment entre elles, qu'est-ce machin, et au fur et à mesure le travail c'est d'ausculter ce qui remonte et de voir ce qu'elles veulent dire, pourquoi elles sont là, et en fait là c'est notre travail de structurer ça, et de voir pourquoi les liens sont là, et
c'est presque la thérapie.
Moi je trouve que moi en tout cas le travail et c'est pour ça que quand les gens disent que le travail c'est une aliénation, moi je suis complètement contre ce truc là le travail moi c'est ce qui me libère de mon état de vivant quoi, c'est-à-dire que sinon si je travaille pas j'ai l'impression, je pense juste au fait que je vais mourir dans pas longtemps et que tout va mal et tout ça, alors que le travail c'est un moyen d'avoir un contrôle sur mon esprit, sur ma vie, et en fait même moi j'ai fait d'autres boulots avant quand j'étais étudiant je vendais des chaussures, dans tous les boulots, quand, si tu le fais bien, si tu le fais précisément avec intention, et ben en fait, tu apprends des choses et quel que soit le boulot, vraiment. Et c'est ce qui te permet de te dépasser en tant qu'humain, de parce que tu te dis ah tiens, si je fais ça comme ça, je vais ça va permettre ça et tout. Et si on réfléchit aux choses qu'on fait et qu'on rationalise, qu'on structure, et ben en fait on devient acteur de nous-mêmes. Et c'est là où je trouve qu'on prend le contrôle. Et pour moi, voilà, le travail c'est avoir un contrôle sur le chaos qui est l'existence, quoi, et l'univers.
Oula.
Ah non, c'est
nous, on a une petite théorie, c'est le jeu, jouer le jeu du sans enjeu. Je t'ai piqué tes mots, Laurent.
Non, mais ça, très bien, vas-y, développe, vas-y, Jérémy.
Non, c'est ta théorie. C'est Laurent, le master of chaos.
Ah, c'est pas une théorie, c'est-à-dire que c'est un lâcher prise que je conscientise tout simplement. C'est-à-dire que bah le monde est chaos et en fait de ce chaos-là va surgir des opportunités. Et en fait le truc c'est d'être attentif. C'est ce que tu disais, Hugo, c'est que en fait si on est attentif aux signaux, on peut capter ces choses qui viennent de nulle part. Hein. Tu vois l'inspiration. On pourrait faire tout un débat sur d'où vient l'inspiration. Mais en réalité, est-ce qu'on est nous capables, en fait, de, comme une antenne, d'aller capter ces choses-là qui vont justement parler à notre inconscient, qui vont faire sortir et surgir les idées. Et il y a un truc derrière ça, parce que ça déjà c'est une première chose, mais derrière, si tu entraînes pas, si tu ne muscles pas en fait cette capacité d'attention, en fait ça sert pas à grand chose. Donc en fait je pense que c'est tout un jeu comme ça, qui fait qu'il faut accepter le fait de pas tout savoir, de pas tout trouver tout de suite, d'avoir ce syndrome de la page blanche, et plus on force, moins on trouve, etc. Et que il y a des moments magiques. Et tu parlais du train. Je pense que le train, c'est un moment justement où on est embarqué en pleine vitesse dans quelque chose. Et là, il y a des moments magiques qui peuvent surgir et les idées, elles arrivent.
Ouais, comme ça. Voilà. Quand t'es plus dans la maîtrise. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il faut quand même avoir une maîtrise au quotidien pour avancer, pour
c'est la tension,
pour avoir une régularité. Mais de temps en temps, quand faut savoir prendre le pas de recul. Je crois que c'est Niels Bohr, je sais plus quel grand mathématicien, qui avait trouvé son équation qu'il cherchait depuis 20 ans. Un jour, il en peut plus, il dit vas-y, je vais à la plage, et puis il met son pied sur, à l'époque les marchepieds étaient en métal, et le son du métal lui fait apparaître l'équation, et il retourne au bureau et il va écrire l'équation. Mais c'est ça aussi qui est fou, c'est que c'est magique, mais pour que ces choses-là arrivent, justement, il faut que les antennes soient orientées vers ce que tu cherches. Et donc, il faut, c'est un mélange très subtil. Et ouais, pour.
Tu cherches que toi? Tu cherches quoi?
Ça dépend des jours. En fait, justement, je cherche pas grand chose. J'écoute les signaux. Je me dis, ah tiens, ça c'est un signal faible, mais il est important. Ça c'est un signal fort, mais il l'est pas. Et j'essaie de voir. En fait, juste, je cherche pas. Je suis. Quand quelque chose m'arrive, je vois s'il répond à un désir du moment. Et s'il le fait pas, je le note. Et puis c'est. L'autre jour, je parlais ici. Et en fait, j'ai une petite sur la création, j'ai une petite métaphore qui m'est apparue, mais c'est qu'en fait, on est un peu des bûcherons, quoi. On est dans un bois, et il faut aller chercher l'arbre que tu vas couper aujourd'hui, et faut voir s'il a à peu près la taille que toi tu peux gérer, qui va dans ton camion, quoi. Et si voilà, s'il convient à toi aujourd'hui. Après, tu dois le couper. En le coupant, tu dois faire attention à ce qui tombe pas sur les autres idées pour pas les endommager. Après, il faut l'élaguer. Après, il faut le débiter. Après, il faut le mettre dans ton camion. Et après, c'est plus toi qui t'en occupes. C'est la distribution, quoi. C'est la diffusion de ton œuvre. Mais il y a quelque chose de comme ça. Et je sais plus pourquoi je disais ça. En tout cas, pour revenir au travail, ce qui fait que je me lève le matin, c'est que je me dis, je vais agir, quoi. Je vais avoir. Sinon, je crois que je serais à l'hôpital psychiatrique.
On serait tous.
Alors tu parlais des signaux forts et des signaux faibles. Il semblerait, hein, je pense pas trop me tromper, que la science-fiction est venue répondre à quelque chose chez toi en termes de signaux. Bah, ton thème récurrent, c'est la transmission, ta grammaire, c'est le dessin, et l'univers que tu as adopté pour aborder les sujets qui t'intéressent, c'est la science-fiction, avec un petit goût prononcé, évidemment, pour la dystopie. Et je me demandais, vu que tu me parlais de capter les signaux forts, les signaux faibles, je crois que la science-fiction est venue répondre, c'est devenu un signal fort. En quoi cet univers-là, il est venu faire écho à tes questionnements les plus profonds, justement?
Bah, je me suis rendu compte un jour que, parce que moi, j'étais vraiment pas science-fiction à la toute base, je me suis rendu compte un jour que j'avais envie de raconter une histoire, j'avais envie de mettre en scène quelque chose, Et je me suis dit, OK, le seul moyen de le faire dans notre réalité, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le réel, de parler du réel, c'était de faire du surréalisme. Et moi, le surréalisme, je suis pas fan spécialement. Et tout d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, mais je me dis, bah tiens, ah, si je faisais voler la voiture, si je faisais, si je mettais des lunettes comme ci et tout, en fait, ça créerait une sorte d'état mythologique un peu.
Ouais.
Et en fait, ce qui est marrant en faisant de la diversion comme ça, c'est que ça axe exactement sur le sujet que tu veux traiter, et ça crée en fait, ça permet de créer des métaphores, des figures qui simplifient un petit peu pour que tu puisses déployer quelque chose de complexe en dessous. Alors que sinon, tu parles d'une complexité qui arrive souvent à quelque chose de très simple, très simplifié. Donc j'ai inversé un peu le système. Et d'ailleurs, dans mon dessin, c'est un peu la même chose. C'est qu'avant, je dessinais en noir et blanc avec plein de hachures, ce qui est resté mon style d'ailleurs dans mon dessin de croquis, on va dire.
Ouais.
Mais je me suis rendu compte que en faisant des récits comme ça très noirs, très hachurés, très très intello, très machin, je me suis rendu compte que je m'adressais pas aux gens. En fait, je leur disais regarde comme je suis bon. Voilà. Et en fait, je me suis dit ah non, tu vas simplifier, tu vas rendre la forme plus lisible et plus sexy, et faire une sorte de prise de judo où tu dis viens, il y a pas de problème. Et c'est une fois que le lecteur est dans tes bras, quoi, qu'il se sent bien. Là, tu peux le molester un petit peu, tu peux lui dire, tu peux lui faire passer des choses
mal.
Plus dures. En tout cas, tu peux le questionner sur des choses. Alors que si t'arrives et que tu te dis, regarde, comme c'est intéressant, regarde comme tu, et ben, en fait, le gars se dira, putain, je vais lire une thèse grosso modo, je vais m'emmerder, quoi. Ben non, en fait, le but, c'est pas que tu t'emmerdes. Au contraire, c'est que tu ressortes augmenté d'un récit, c'est que tu retournes dans le réel avec des idées en plus et tout. Mais pour ça, il faut y aller poliment, quoi. Il faut y aller,
Ouais. Respecter ton audience. Mais justement, ouais. Tu utilises des couleurs très pop, il y a une esthétique assez sexy aussi dans ton travail, mais l'avenir que tu dépeins, il est quand même assez sombre. Tes BD, d'ailleurs, elles sont assez complexes, on n'entre pas en mode touriste dans ton travail. Il faut vraiment prendre le temps de bien rentrer dedans, donc d'où le fait de, voilà, entre guillemets, attirer, tu vas pas te faire chier avec moi. Mais je me demandais aussi quel besoin existentiel. Je sais, c'est des grands termes, mais je pense que tu fais partie de ces personnes qui sont vraiment habitées par ce genre de truc. Quel besoin existentiel, ces prophéties, tu vois, d'un monde à venir que tu couches sur le papier, ça, qu'est-ce que ça vient combler chez toi?
Bah, c'est juste que je me dis si les quelques lignes que je vois se tendre pour le futur se déploient comme elles semblent se déployer, bah, on est en train de créer. Enfin, au moins, il faut se poser la question de est-ce qu'on est prêt à changer d'humanité ? Parce que c'est ça les questions que je pose. C'est fondamentalement, si on va dans les zones où j'estime qu'on va, alors il faudra redéfinir le concept d'humanité. Et moi, ma grande question, c'est de dire, les gars, c'est de dire, regardez ça, si on continue, ça va faire ça. Est-ce que vous êtes d'accord ? Parce que moi, je me demande si j'ai envie qu'on devienne autre chose que des humains, quoi. Grosso modo, c'est ça.
Ouais, et sachant des grandes tendances en science-fiction, justement, c'est cette question-là de qu'est-ce que l'humanité va devenir, est-ce qu'elle va se scinder en plusieurs mouvements, en plusieurs tendances. Il y a la robotique, les machines qui arrivent aussi dans ces questionnements-là. Et là, on sent que tu t'aimes bien explorer toutes ces questions.
J'aime bien dire bon bah au moins les gars au moins on y aura peut-être réfléchi ensemble pendant même parce que moi ça. je pose que des questions. C'est Pie XII, c'est le pape Pie XII qui disait que au nombre de techniciens il fallait des philosophes pour comprendre ce que la technique allait générer. Clairement on a trois philosophes aujourd'hui et je sais pas combien de techniciens. Et en fait, ce qui est fou aujourd'hui, et c'est ce que j'ai un peu essayé de dire dans Préférence Système, c'est qu'aujourd'hui ça va tellement vite, aujourd'hui le saut technologique est tellement grand qu'on ne sait même pas. On ne sait même pas ce qui va générer et on n'a même pas anticipé ça. Et donc on va se retrouver comme des poules avec des couteaux, quoi. Et le problème, c'est qu'on est en train de se mettre déjà temporellement dans le temps en compétition avec quelque chose qui est beaucoup plus performant que nous. Mais justement, c'est là où il faut interroger la performance. Qu'est-ce que c'est que, et ça va peut-être nous amener à ChatGPT
j'allais venir.
Voilà.
Inévitablement.
C'est quoi notre travail d'humain? Moi, ça me fait halluciner qu'on génère ces choses-là et qu'en gros, on n'arrête pas de dire, ah, mais les machines vont remplacer les bullshit jobs et tout ça, machin. Mais on voit que, à terme, quand on pose la question même à ChatGPT, elle dit, bon, bah, ce qui restera, c'est les serruriers, c'est les plombiers, c'est, et les livreurs. Et tu te dis, non mais attends, la technologie, qu'est-ce que ça veut dire idiot? C'est quoi le mot idiot, l'étymologie? C'est celui qui ne cède pas d'un bâton. Parce qu'à l'époque, en gros, tu marchais, et puis quand tu étais fermier, puis bah, tu prenais un bâton, et c'est la première technologie, c'est tu vas t'aider. Mais la technologie doit nous aider, doit nous permettre de dégager du temps pour en fait accéder à notre être poétique, à notre théâtre intérieur. Et c'est à ça qu'elle a toujours servi. C'est ça la fin utile de la technologie. Et là, on est en train de se rendre compte que, ben, en fait, la technologie va nous arracher à notre... Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait avec les téléphones portables. On est en train de réfléchir. Tout d'un coup, on est en train de rentrer en nous et d'avoir accès à des idées, avoir accès à notre imaginaire. Et tout d'un coup, ça vibre. Ah super, il a posté une photo de son repas, génial. Du coup là, je suis remonté à une vitesse pas possible dans mon conscient, et alors que j'étais dans mon inconscient, tranquille, en train de je sais pas, de flâner et de me faire traverser par des idées, et en fait toute la technologie aujourd'hui, le téléphone portable, moi c'est pour ça, surtout les smartphones, c'est pour ça que je leur en veux terriblement, c'est qu'elles nous ont arrachés à nous-mêmes. Et c'est en ça aussi, voilà, la technologie, faut la remettre en question, faut la questionner, lui dire est-ce que moi j'auto... Et en fait le problème, je suis la première victime, je suis le premier à regarder mon téléphone tout le temps, alors que j'ai résisté pendant, je sais pas, 3 ans, je voulais pas de smartphone. Bah bon, à un moment donné, j'étais complètement off, et du coup la société, parce que l'idée c'est quand même de participer aussi à la société, c'est d'en faire partie. Et si tu refuses de, bah en fait tu te retrouves complètement marginalisé.
Oui, t'es un pari.
Et d'ailleurs on voit les vieilles personnes, c'est terrible. On leur dit aujourd'hui, si tu veux payer tes impôts, il y a plus qu'en ligne. Moi je suis désolé, c'est pas possible. À ce moment-là, faut payer des formations aux vieux pour qu'ils puissent avoir faut leur payer un ordinateur, faut leur payer un truc internet. Et ça d'ailleurs à long terme, ça va créer, même ne serait-ce que ce petit truc, ça va créer des injustices sociales pas possibles, parce qu'il y aura ceux qui pourront se payer un wifi, d'autres qui pourront se payer un ordinateur, et d'autres qui non. Et du coup, eux, ils seront complètement marginalisés. Et tout ça, il faut le réfléchir, parce que c'est nous demain. Et on n'arrête pas de parler d'inégalité sociale et tout machin, mais ça passe aussi par là maintenant. Et enfin voilà, je m'énerve.
Non mais t'as raison, t'as raison de t'énerver. Et d'ailleurs, je trouve que t'as trouvé un petit peu la contrepartie à tout ça. C'est quand tu crées Mickey.
Ouais.
Je trouve ce personnage absolument fascinant, parce qu'il est dans tes histoires, il est souvent plus humain que les humains, parce qu'il étudie. Hein, on sait pas trop ce qui se passe en tâche de fond dans ces programmes. Je pense que tu nous réserves des surprises pour le futur de Mickey, Tu peux nous expliquer un petit peu ce personnage qui il est et pourquoi dans ton univers en fait il est très important.
En fait, Mickey, quand je l'ai trouvé, je l'ai trouvé à l'occasion d'un clip en fait c'était un Antoine Cogut qui m'avait fait la musique de mon film de fin d'études au Gobelin, et puis je lui avais dit bah écoute, un jour je te ferai un clip pour te remercier, et puis quelques années plus tard, 8 ans je crois, il sort un album, et puis là je me dis bon, je vais lui faire quelque chose, et là je voudrais parler de la fin de l'humanité, et je me suis dit c'est quoi la fin de l'humanité, et là je me dis mais en fait on sera mort quand le fils de l'homme sera mort, et je me suis dit c'est quoi le fils de l'homme, c'est un robot, c'est les robots, et donc j'ai mis en scène la mort du fils de l'homme, du dernier robot. Et donc c'est comme ça qu'est né Mickey. Et après, je me suis mis à l'interroger. Enfin, et je me suis rendu compte que ce personnage me permettait très simplement, en fait, de faire ce que je faisais naturellement, c'est-à-dire de regarder le monde avec un recul, de manière assez neutre, sans avoir d'a priori, sans avoir de préjugés, et d'être le plus objectif possible. Et en fait, ce qui me permettait de dire à mes personnages des choses objectives, qui sont jamais agréables à entendre, qui sont toujours assez violente, parce qu'en fait les humains ont, et ça j'en parle dans Paiement accepté, mais on passe notre temps à se créer des petits mensonges.
Oui, on ment, c'est le principe de l'humanité.
On ment, on se met des,
pour échapper à la peur.
Voilà, exactement. Et là l'idée c'était de créer un personnage qui est notre miroir et qui nous renvoie une image qui est pas agréable à recevoir, et moi-même qui me permet de regarder des choses que j'aimerais pas voir, et de me les prendre dans la gueule et de me les dire à moi-même. Et ça, c'est souvent quelque chose que je dis à mes élèves quand dans les écoles où je passe, faut à la fois se respecter pour pas voilà, mais grosso modo, tant que tu sais pas que t'es une grosse merde, tu peux pas faire quelque chose. Enfin, là, il faut avoir compris ce truc, que t'es pas, on est tous des humains, il y a pas meilleur qu'un autre et tout. La seule chose que tu peux faire, c'est accepter ça pour aller en fait au-dessus de ça, derrière ça. Mais sinon t'es en train de te respecter et t'es en train de te dire ah non, moi je peux pas faire ça, il faut que je fasse au moins ça et tout machin. Non, t'es une merde, fais ta merde Et ouais. après, tu, et voilà.
Mais c'est ce qui me touche aussi pas mal dans tes BD, c'est que, certes, il y a une forme de désenchantement, ou du moins, on ressent une forme d'inquiétude, mais que voilà, t'es juste dans le questionnement. Mais il y a une réelle empathie aussi dans ton travail sur tes personnages qui sont tellement humains, qui sont absurdes par moments, ils sont parfois vraiment dégueulasses. Et pourtant, il y a ouais. quelque chose de touchant. Et puis, ils fonctionnent comme un miroir de nos propres paradoxes. Quoi. On se regarde, on se dit, si on a un petit peu un minimum honnête avec nous-mêmes, on se dit, mais en fait, je suis peut-être pas l'homme le plus riche du monde comme dans Total, mais je...
Mais j'ai des réflexes.
Oui, voilà, c'est ça. On s'y retrouve, en fait. Et
c'est, ah, moi, c'est
un
ça
miroir
aussi,
pas très reluisant que tu nous renvoies.
Bah, c'est qu'il y a tous en nous un gros... un ou une grosse dégueulasse, un ou un an ou une ange ou enfin voilà, il y a on est des êtres pluriels en fait, en nous il y a, et c'est cet éternel combat du bien et du mal que tout le monde doit mener dans sa vie, et c'est juste que nier le mal en nous et surtout dans les récits, nier le mal dans ces personnages, c'est en fait lui donner une place, lui céder le monde en fait, et moi ouais. j'aime bien créer des personnages qui se battent contre eux-mêmes, qui sont face, moi mes personnages ils sont toujours face aux horreurs qu'ils sont, et ils doivent se démerder avec ça et essayer d'être les meilleurs de version d'eux-mêmes. Et Yves par exemple, qui c'est une sorte de héros parce qu'il va sauver quelque chose, mais au fond c'est quelqu'un de très égoïste aussi, qui impose à quelqu'un d'autre qui est sa femme ouais. quelque chose qu'elle a pas voulu. Elle par ailleurs, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que à mon sens, elle est le robot avant l'heure. C'est quelqu'un qui réagit que à des impulses extérieures, et donc
elle nous ressemble beaucoup, hein.
Bah ouais,
en réalité, ouais.
Et je pense que c'est le personnage qui me ressemble le plus, quoi. C'est moi quand je l'ai écrit, je me disais, bah moi, je suis cette personne devant un ordinateur toute la journée qui répond à des commandes, à des machins. Et elle m'intéresse. C'est presque le personnage qui m'a le plus intéressé parce qu'elle, je me sentais à ce moment-là, je sentais que je détenais pas mon destin entre mes mains, que j'étais que ce que je faisais était le fruit de souvent de d'impulses extérieures, et qu'il fallait absolument reprendre la main.
À quel moment tu t'es rendu compte qu'il fallait reprendre la main? On en parlait en off, t'as une petite fille depuis 20 mois, donc j'imagine que ça t'a forcé d'une certaine manière, mais même avant ça, à quel moment tu t'es dit je dois arrêter de fonctionner comme une machine? Parce que ta production est hyper impressionnante. Mais peut-être que ça a un coût, le fait de jamais prendre de vacances et de saturer, je sais pas.
Ouais, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pendant 10 ans, je prenais 5 jours de vacances par an, pas de week-end, je travaillais 12 heures par jour, et j'avais de la chance d'avoir une femme qui travaillait aussi autant que moi, et donc ça n'a jamais créé de conflit.
Ouais.
Mais en tout cas, c'est vrai que à un moment donné, je me suis dit, c'était juste avant Préférence Système, parce que ça commençait à fonctionner vraiment bien pour moi, parce que j'avais réussi à tout structurer, mais je me rendais compte que je produisais beaucoup, 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 et Préférence Système, c'est aussi le fruit de ça, c'est de me dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu produis beaucoup trop, quoi, et si tout le monde fait ça, ben, ça fait quoi? Enfin, parce qu'à chaque fois, c'est ça, c'est même, c'est pour ça, souvent, que je parle du particulier, du général, mais ouais. toi, tu jettes ton papier à côté de la poubelle, ça revient sur ce que je dis, je produis beaucoup, donc est-ce que les autres, si tout le monde fait ça, qu'est-ce que ça donne? Si je jette mon papier à côté de la poubelle, moi, c'est pas très grave, lui, c'est pas très grave, mais si on est 100 000, bon, bah, il y a que des, enfin, voilà. Et en fait, à chaque fois que j'ai un comportement où je fais quelque chose en me disant, ah, mais ça, répliqué à l'infini, qu'est-ce que ça donne? Enfin, voilà. Et en fait, moi, je pense souvent comme ça. Je me dis, si tout le monde fait ça, c'est la merde. Donc, ça que moi, je m'ajuste j'ajuste mon comportement et ma manière de bosser ici avec les autres. C'est d'essayer d'être, en fait, de remettre ça dans une échelle générale et de voir comment ça résiste. Quoi.
Et t'as réussi à lever le pied?
Ça dépend des jours.
Oui, mais non, mais oui, non, mais peut-être.
En tout cas, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je travaille plus le samedi et le dimanche, ce qui quand même est une
pas mal.
Production, de production terrible. Mais bon, après, je suis maintenant avec la maison d'édition, on publie entre 3 et 5 clips par an. Le studio, on fait je sais pas combien de clips par an de courts métrages, de pubs, et puis là, on développe mon film. Donc, non, je suis pas dire que j'ai freiné, mais c'est juste que j'organise peut-être mieux.
C'est raisonné, quoi.
C'est plus organisé. Même si avant, non, en fait, je pense que 2019, ça a été une année, je sais même pas comment j'ai fait. Quand tu regardes tout ce que j'ai fait en 2019, je comprends même pas, moi, humainement, comment c'était possible. Et aujourd'hui, je sais que j'arrive à faire énormément de choses, mais c'est vrai que et puis parce que aussi, je suis accaparé par un gros projet qui prend beaucoup de temps et qui est aussi une sorte de, tant que je l'ai pas fait, tant que je l'ai pas fini, on va dire, c'est 80% de mon temps. Mais voilà.
C'est Tu travailles 80% de ton temps sur ce gros projet?
Ouais, et 20%, je fais tout le reste, je fais tout. Bah, la boîte. Ah, c'est là où je voulais revenir sur le travail. Désolé, je fais une digression. C'est que, par exemple, moi, on n'arrête pas de dire le métier le plus nul du monde. Tout le monde dit, ah, bah, c'est comptable. Et en fait, c'est pour ça que je voulais dire, quand tu trouves quelque chose dans un domaine, tu peux le, c'est qu'en fait, moi, la comptabilité, et ça peut nous rapprocher aussi de Total, tout ça. C'est que moi, je pensais que c'était un métier vraiment chiant, machin. Et puis, bah, quand t'as une boîte, t'es obligé de faire la comptabilité. Parce que sinon, voilà. Et donc, et là, quand tout d'un coup, quand tu rentres dans la précision de ce métier, parce que tu commences à t'intéresser à parler à ton comptable, tu sais, pour voir que pourquoi tout d'un coup je me retrouve avec autant de trucs et tout machin et de charges. Et là, en fait, tu te rends compte un truc magnifique, c'est qu'un chiffre, ça s'interprète. Et là, tout d'un coup, ça devient de la poésie. Et tout d'un coup, tu commences à comprendre que ce métier a un intérêt même poétique. Et enfin bref, voilà, c'était juste pour
dire. Non, mais t'as tout dit.
Tous les métiers, tous les métiers, c'est ça. Quand tu rentres dans la précision, il y a toujours une poétique, même dans le langage qui est lié à un métier. Il y a toujours un langage très précis. Voilà. Et moi, ça, ne serait-ce que pour le langage que génère un métier, je trouve ça intéressant.
La semaine dernière, mon comptable, il m'a présenté mon bilan, le bilan comptable. Il m'a dit, attention, avant de vomir, je vais quand même vous expliquer un petit peu, justement, comment on interprète les chiffres. Et c'était génial parce que j'ai vraiment appris énormément de choses et un petit peu comme tu viens de dire, Hugo, c'est assez incroyable. En fait, oui, c'est pas juste des sommes, quoi. Il y a quelque chose derrière qui dit aussi qui on est et comment on peut faire, quoi.
Ouais.
Mais ce qui me marque dans ce que tu dis aussi, Hugo, c'est d'où l'importance de la précision. Tu l'as dit. Et donc, du coup, que si on veut se lancer dans un craft, un médium, un travail, un métier, que sais-je, quel que soit le projet, d'ailleurs, c'est pas obligé que ce soit du boulot.
La
précision, c'est donner ses lettres de noblesse à ce qu'on fait quelque part. C'est de pas faire les choses à moitié. C'est de les faire avec amour, avec passion et de se donner pleinement. Que si on fait la chose un petit peu à moitié, bah, le résultat sera peut-être à moitié.
Ouais, c'est clair. Et puis c'est la répétition d'un geste. En fait, c'est l'acquisition d'un geste. C'est de réflexe. C'est ce que, ouais, de réflexe.
Ouais, c'est le craft. Ouais. 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 Donc, tu disais juste avant que tu consacres, c'est étonnant, c'est inspirant, 80% de ton temps sur un gros projet, qui je crois est un projet personnel, et 20% sur tes projets, le studio, l'édition, etc. Je pense que beaucoup de gens rêveraient de pouvoir consacrer 80% de leur temps à un projet de cœur et 20% juste pour faire rentrer des ronds. Mais est-ce que tu peux nous parler de c'est quoi ce 80% et c'est quoi les 20%?
Mais ouais, c'est vrai qu'avant, quand je suis sorti de l'école, je m'étais toujours dit, allez, faut s'obliger un petit peu parce que je vais gagner ma vie et je vais le faire. À l'époque, je me disais, 90% de ton temps, tu gagnes ta vie, mais tu alloues 10% quoi qu'il arrive. C'est pour ça que je prenais pas de vacances. Quoi qu'il arrive. Et en fait, au début, la première année, c'était 10%. Et puis, ce travail a généré, en fait, c'est toujours ces 10%-là qui ont le plus de valeur. Et ces 10%-là, l'année d'après, sont devenus 20. Après, c'est devenu 30. Et en fait, après, c'est justement, tu apprends à structurer mieux et machin. Et maintenant, on va dire que, j'ai structuré la chose de manière à pouvoir passer 80% sur ce projet-là. Et on va voir comment ça se déroule. Après, c'est un film, c'est un long métrage qui s'appelle Arco. Et c'est un film familial, une utopie heureuse. Parce que justement, j'en avais marre des dystopies qui nous condamnent. Et je pense que comme les récits des années 50 à 80, enfin même à aujourd'hui de science-fiction, nous condamnent à une mort certaine et dans les pires conditions, je me demande si, et en fait on voit que c'est en train de se dérouler, je me demande si c'est pas à notre tour, à nous tous, de faire des prophéties réalistes, hein, pas des choses, ouais. pas des utopies, pas des trucs, mais de faire le récit d'un monde viable et où le désir, la beauté subsistent. Et pour qu'il advienne à son tour, quoi. Voilà.
Je trouve que c'est hyper touchant parce que souvent, même les films qui sont encensés, les films d'auteur, les trucs vraiment genre oulala, c'est un grand film. Il y a vraiment ce truc qui est une sorte de photographie ou genre un truc un peu cynique, un peu représentant, qui pose des questions. Et c'est important de ce que c'est aujourd'hui. Puis à côté de ça, t'as des blockbusters ou les films juste pour se divertir, mais. Et puis toi, il y a vraiment ce truc de je veux faire un grand film, mais qui apporte quelque part un regard, c'est une prophétie
positive,
c'est quelque chose de beau, quoi. Ouais, enfin c'est bateau dit comme ça.
Ah positif, oui, mais bon,
je trouve que c'est très réducteur de le dire comme ça, mais je trouve ça hyper trop chouette quand je regarde toute ta production et que là, tu veux vraiment travailler à fond. pour créer un long métrage qui nous en met plein la vue sur quelque chose de voici un avenir meilleur qui serait éventuellement possible. Je trouve c'est hyper touchant.
Bah, et puis c'est aussi parce que j'ai une petite fille aussi entre temps et que je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui va, si elle lit mes livres, là, grosso modo, elle va se dire, mais bon, bah, il a passé sa vie à critiquer, ou à dire, ah, machin. Mais j'ai envie aussi qu'elle voit que, et d'ailleurs, pas que elle, hein, que les enfants et que leurs parents se disent, ah, mais c'est vrai que c'est à nous d'imaginer le monde de demain et de pas penser, et ça, c'est une grande question, mais c'est ce qui a fait avancer nos sociétés, ce qui a fait avancer, c'est pas que la nécessité, c'est pas vrai, ça n'a jamais été le entièrement le cas, c'est il y a le désir aussi. Et si notre désir, c'est juste effectivement de s'en mettre plein les fouilles et puis de se casser et puis bon bref, ou de mais on peut avoir un désir de pour le général, pour le futur, pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants. Et moi, cet absolu me plaît et j'ai envie de laisser quelque chose qui dise, les gars, en fait, c'est à nous, il faut écouter nos désirs, il faut écouter, et par contre, pas penser que les choses sont simples. Ça veut pas dire ça. Mais ça veut dire prendre nos désirs au sérieux et travailler suffisamment pour qu'ils adviennent. Voilà. Et c'est un peu l'objet du film.
Trop hâte. Ce film, pour nous être un petit peu documenté, ça fait longtemps que tu en parles. C'est comment de porter un projet sur d'aussi nombreuses années?
Bah là, ça fait 2 ans. Et pour moi, c'est long, c'est vrai, parce que d'habitude, une BD. Bon, après, je travaille longtemps sur mes BD. Mes BD, c'est toujours le fruit de 2 ou 3 ans de travail. Préféré en système, c'était 3 ans. Entre le moment où je commence et le moment où elle sort, c'est long. C'est pour ça aussi qu'après, je menais 2 BD en parallèle. C'était pour pouvoir, pour pouvoir avancer un peu plus, enfin, avoir une production plus importante, enfin, voilà, plus soutenue. Et là, bon, le long métrage, c'est un travail colossal, donc je peux pas mener trop de trucs. Là, je vais sortir deux petites BD qui vont sortir dans les prochains mois, mais c'est des objets plus petits, c'est moins global. Il y a un livre qui est pour ma fille et puis un livre qui est pour la Biennale de Venise. Mais c'est vrai que la majorité de ma réflexion, elle va sur ce film parce que je veux que ce soit quelque chose justement qui résiste et surtout quelque chose qui soit partagé. Je veux que ce soit un film qui s'adresse au monde et pas simplement aux médiathèques.
C'est un film grand public, pardon.
Ouais, c'est un film. Bah, c'est pour ça qu'aussi il coûte cher. C'est parce que je veux qu'il ait une facture qui où les gens se disent, ah, je vais pas voir un film fait avec des, enfin, auteurs, enfin, je sais pas comment dire, art et essai. Je vais voir un film. Vraiment comme les films des années 90 qui sont pour moi les plus équilibrés, qui sont à la fois des films d'auteur mais avec un procédé qui s'adresse à tout le monde, quoi.
T'as des films cultes comme ça des années 90?
Je pense que Spielberg, on peut dire que c'est quand même, ça résiste bien. Je sais pas, Rain Man, Harry rencontre Sally. Des choses qui sont à la fois très, je sais pas, ça, effectivement tu t'as pas besoin d'être dans de bonnes dispositions pour le regarder, mais ça coule comme un film blockbuster, et en même temps en sous-main il y a des bons dialogues, ça travaille,
tu vas bien. T'en rappeler quoi, ça, tu vas te rappeler, une fois fini il sera pas juste consommé, c'est-à-dire que tu vas mettre du temps à le digérer et à t'en souvenir.
Apocalypse Now, pour le pire et pour le meilleur, je sais pas si vous l'avez vu, de James L. Brooks, ça pour moi James L. Brooks c'est incroyable.
Apocalypse Now, faut quand même se mettre dans des conditions pour regarder, non?
C'est vrai.
Celui-là, oui.
Mais il y a une ampleur qui est incroyable.
Tu dirais qu'aujourd'hui, on a un peu perdu cet esprit. Tu parlais des années 90, qu'aujourd'hui, c'est moins présent.
Aujourd'hui, je trouve que on fait des films de marché comme des films d'auteur, et on fait des films.
Il y a un revival esthétique des années 90, mais peut-être pas un revival.
Mais c'est un revival formel. Mais les idées, un film, c'est quoi? La création, c'est quoi? C'est actualiser les peurs ancestrales, c'est actualiser les espoirs ancestraux, c'est une actualisation du. Enfin, on est là pour ça, on est là pour actualiser l'homme à lui-même, quoi.
Pour revenir brièvement à ton film, t'es à quel stade de production là? C'est quoi vos challenges un peu actuels sur ce
film? Là, on est en train de faire l'animatique, donc le document. C'est après le storyboard, on met dans la timeline et on décompose un petit peu le mouvement et on essaie de le faire très précisément pour que après les équipes puissent arriver. et si tout se passe bien. Mais je ne veux même plus parler de si tout se passe bien.
Pourquoi ça te fait peur?
Non, mais parce qu'après, tu fais des annonces et puis en fait, si tu n'arrives pas à tenir les timings, les
gens ah oui, c'est hyper frustrant.
Donc maintenant, je me dis juste, j'avance, on voit comment ça se passe. Et puis encore une fois, vu que c'est un film assez ambitieux techniquement, et qui nécessite une tenue formelle particulière, qui est plus parce que c'est pas non plus une industrie. Je veux pas faire un film industriel. Moi, comme dans mes BD, on sent la main, on sent le.
Et parce que bon, on peut pas échapper au fait de se dire, tiens, ça me fait penser à Ghibli quand on voit le trailer ou le teaser d'Arco. Et on sent en fait cet amour du geste en fait dans les dessins qui sont animés justement. Dans le
ouais, moi je veux pas que ça devienne la grosse Bertha très industrielle à l'américaine. Je veux que ça reste quelque chose de sensible et mais avec les qualités de l'industrie, enfin avec les que ce soit sur les standards de la grande production industrielle avec des voilà. Ça vous dérange pas trop le son à côté?
On n'entend rien.
Pas du tout. Okay.
Sinon, je vais leur dire parce que c'est l'heure du. Il y a la cantine juste à côté.
Non, on n'entend rien.
Qui se nourrissent.
Je me demandais justement comment tu vis cette tension entre le marketing pour vendre le projet, pour chercher peut-être des financements ou de l'audience, de l'intérêt et le fait que, ça prenne plus de temps. Je pense que c'est un sentiment qui peut être partagé par beaucoup de gens, beaucoup d'artistes, des entrepreneurs aussi. Le fait de s'avancer et puis la réalité du terrain, je sais plus quel dicton dit que tout prend deux fois plus de temps, la loi de Hofstetter ou je sais plus.
Ouais, c'est ça.
En fait, ce qui est compliqué, c'est que en bande dessinée, ça coûte pas très cher à produire, tout dépend un peu de toi, au maximum de si t'es un coloriste et puis du prix d'impression, ça coûte pas très cher. Là, tu dois mobiliser tellement de gens, tellement te faire confiance. Et puis, moi, je pensais qu'avec ce que j'avais fait en bande dessinée, que le travail serait plus rapide parce que les gens me feraient confiance. Mais en fait, non, parce que tout le monde a des réflexes en disant oui, non, mais ce que tu fais là ne marchera pas forcément là, dans les trucs. Alors que, en fait, c'est juste que, voilà, il faut comprendre que ce qu'on a réussi encore une fois dans un domaine, on peut le faire basculer à l'autre. Ça, c'est très français de dire ah non, mais machin. Et du coup, en fait, moi, ça m'a pris même du temps à moi d'assumer que je savais raconter des histoires parce que en gros j'ai cru, on m'a fait comprendre que écrire un scénario c'était pas du tout comme écrire une histoire. Bon, alors du coup j'ai passé beaucoup de temps à me poser des questions si c'était valable pour un scénario et c'est le moment où j'ai arrêté de réfléchir au fait que c'était un scénario que j'ai commencé à raconter une histoire. Mais ça typiquement la mise en garde des gens autour de toi, elle est très néfaste parce que les gens te font, alors qu'ils te faisaient confiance à un endroit, te font plus du tout confiance à un autre. Et alors que toi, t'es resté le même, et t'es resté un être réfléchi, t'es resté, voilà. Et donc moi, ça m'a juste mis du temps à me dire, mais attends, en fait, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Et c'est comme ça que je peux faire quelque chose de bien. Si je fais quelque chose, et d'ailleurs les premières fois, tous les gens disent mais c'est moins bien et tout machin que du Hugo Bienvenu. Et tu fais, mais en fait, c'est juste parce que toi, t'avais des attentes sur un autre.
Ah oui, c'est la projection que tu fais sur les autres.
Et là, maintenant, les gens voient le truc et ils font « Ah putain, t'as jamais fait quelque chose d'aussi ?» Et tu fais « Bah, et c'était la même personne. »
Je vous l'avais dit, ouais.
C'est juste qu'en fait, c'est eux qui sont empêchés dans leur capacité de projection de toi, ce que t'es en train de fabriquer. Et c'est pour ça que la BD, c'est génial. C'est que la projection, elle est minime. Tu fais, et puis les gens, ils lisent. Et puis voilà, il n'y a pas de... Les gens doivent pas se projeter dans le résultat, dans ce que peut être le résultat final. Alors, quand tu fais un film... Bah, il faut montrer beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de garanties pour dire « Vous inquiétez pas, ça va être conforme. » Et ça va être...
Je trouve que c'est intéressant aussi, tu sais, on pourrait avoir cette tentation de vouloir se faire valider par l'extérieur, que là, tu es en train de nous dire, en fait, même si vous saisissez pas, j'ai ma boussole intérieure, je sais où je vais, peut-être que je vous perds en cours de chemin, mais moi, je me suis pas perdu, ou si je me perds, bon, c'est ma responsabilité. Et ça demande quand même une force de caractère,
mais surtout,
de pas vouloir plaire et de pas répondre aux attentes et de garder son gouvernail.
Après, Jérémy, tu dois composer avec ces personnes, c'est-à-dire que tu peux pas les enlever de l'équation. Mais le truc, c'est de savoir en fait si toi, à quel niveau tu vas te perdre en fait. Et c'est ça en fait, c'est cette limite en fait, ce cadre-là que tu dois peut-être tracer en tant que créateur pour justement que ton projet il soit comme tu l'as imaginé et qu'il soit pas dévoyé quoi.
Mais moi, pour le coup, être un bon producteur, pour moi, c'est ce que j'essaie de faire quand je produis les autres, c'est de leur faire confiance. En fait, c'est leur métier. C'est moi, ce qui m'intéresse chez eux, c'est, et ça, c'est vraiment très particulier, c'est que le dessin nous apprend ça. Mais c'est quoi notre ADN? De quoi est constitué notre ADN en tant que dessinateur? C'est notre incapacité à reproduire ce que fait quelqu'un d'autre. C'est notre incapacité à reproduire la nature. C'est ça qui fait, c'est la qualité de nos erreurs qui génère un style. Et en écriture, c'est la même chose. C'est ce qu'on n'arrive pas à résoudre qui crée, et c'est notre capacité à résoudre autrement qui crée la spécificité. Et en fait, si tu veux juste voir un film que t'as vu 100 fois, bah, va sur Netflix. C'est charté. Il y a pas de problème. Il y a des béquilles de partout. Tu vois les fils de partout. Moi, ce que j'aime quand je regarde un récit, c'est être face à l'inconnu, c'est être face à ce que je ne comprends pas. Et je pense que c'est de ça dont souffre le cinéma, enfin, la création aujourd'hui, c'est que tu disais tout à l'heure les remakes des années 80. Bah, c'est exactement la même chose. C'est que tu prends le substrat et tu le transformes. Bon, bah, en fait, c'est quoi? C'est un glissement de forme. Mais ce qu'on comprend pas, c'est que c'est pas l'esthétique qui nous plaît. D'ailleurs, moi, mes illustrations, je suis pas le plus grand dessinateur. Je ne pense vraiment pas. Mais c'est de faire habiter, c'est d'habiter une forme. Et c'est souvent la question c'est souvent, tu vois des grands dessinateurs, tu te dis, putain, il est trop fort en dessin, mais son image ne génère rien. Et c'est la question que normalement, on doit tous se poser, c'est la question toute bête de la représentation. C'est pourquoi je représente ça? J'ai une capacité de représenter, mais est-ce que ça vaut le coup de représenter ce que je représente? Et bref.
Est-ce que ça t'arrive,
tu te poses la question.
Est-ce que ça t'arrive des lecteurs ou des fans qui te questionnent en te disant, mais toi, qu'est-ce que t'en penses vraiment? Tu sais, tu montres des choses, tu fais des constats, la puissance de l'art, c'est d'évoquer des choses sans être entièrement clair. Mais est-ce que tu as parfois des personnes frustrées qui se disent, mais Hugo, bienvenue, il pense quoi vraiment? C'est quoi ses opinions, pour revenir sur le début de l'interview?
Là, quand on voit ça, tes personnages, ouais, c'est sûr.
Ouais, bah, même, j'ai eu des problèmes, parce qu'il y a des gens qui pensaient que ce que disait Donald Trump dans Paiement Accepté, ils pensaient que du coup, j'étais un boomer, mais c'est ça c'est là où il faut faire attention. C'est pas parce que je mets dans la bouche de mes personnages des choses que je pense ce que disent mes personnages. Par contre, j'ai entendu des choses, je côtoie des gens dans le réel, je côtoie des humains, et en fait l'humanité est faite de ces gens-là aussi, et moi ce qui m'intéresse, c'est témoigner de l'état de l'humanité aujourd'hui, et dire que cette personne n'existe pas aujourd'hui, ça n'est pas vrai, c'est créer un mensonge, c'est créer une fiction qui est pire que de le montrer, que de dire ce personnage existe et regardez, peut-être qu'il n'est pas que ça, peut-être qu'il y a de la rédemption chez cette personne, peut-être que c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, que, bah, on contient le pire et le meilleur, mais il faut faire exister les deux. En tout cas, moi, ce que j'aime, c'est les récits où le pire et le meilleur existent, pour qu'en fait, ce soit au spectateur de se situer, et globalement, tous les spectateurs se situent du côté du bien, parce qu'on est fait comme ça, et on se positionne, et à part, je connais pas de grands méchants qui se disent, ah ben, moi, je voudrais trop être comme lui. Je sais pas. Globalement, on est des êtres empathiques. Mais si on fait pas exister le mal, le bien ne peut pas exister non plus. On est dans une,
voilà. De fait,
donc,
ouais.
Donc, moi, j'essaye de faire confiance au spectateur. Et des fois, il y a des gens qui me disent, ah, mais voilà, c'était une interview, je sais plus où en gros, l'intervieweur me dit, mais on comprend pas avec Total, t'es quelqu'un de droite et tout. Je lui dis, bah, si vous avez pensé ça, si vous avez pensé ça, c'est que je pense qu'il y a un biais de lecture, quoi, parce que.
Une projection chez vous, ouais.
Ouais, parce que moi, je relisais là, ma question, c'est pas d'être de gauche ou de droite, c'est bien de poser la question de l'humanité et de poser la question de, on a tous un rapport à l'économie, en fait, et le nier, c'est nier la réalité. On est tous des êtres économiques.
En fait, tu fais de la science-fiction, mais c'est ce que tu as dit au début, hein, mais pour évoquer le réel, et on penserait pas à ça forcément tout de suite. Quand on pense science-fiction, on se dit que, certes, c'est une projection peut-être sur l'avenir, mais il y a quand même l'idée de s'évader, que dans tous tes propos, il y a vraiment le fait de constamment revenir au réel. Je trouve ça hyper intéressant.
Bah, en fait, et aussi d'intégrer le passé dans le futur. C'est-à-dire, dans ma science-fiction, il y a toujours une chaise des années 60, il y a toujours,
oui, il y a des traces, juste, oui.
Ouais, parce qu'en fait, notre futur, il est fait, et notre présent est fait du passé. Donc, pourquoi notre futur ne serait pas fait aussi de notre passé?
Bien sûr.
Et c'est de dire, moi, j'ai écrit Total parce que on est en France, et il y a un truc, faut pas parler d'argent, machin. Mais du coup, aussi, passer les détails, mais j'étais associé avec quelqu'un qui m'a vraiment enculer. Mm-hmm. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, bon, je peux effectivement râler et dire, il m'a niqué. Je peux aussi râler contre le système. Je peux aussi, mais à un moment donné, bah, faut peut-être que je me renseigne aussi sur l'économie, parce que plutôt que de dire que, ah oui, le capitalisme, c'est chiant, machin, et bah, je vais essayer de voir quels sont, de quoi il est fait. Et donc, j'ai commencé à lire sur l'économie, j'ai lu beaucoup de philosophie économique, Georg Simmel.
Ah oui, Total est bourré de dialogues qu'on comprend pas, hein, si on s'accrochait. Mais c'est jamais noyé. Dans le récit, c'est-à-dire qu'en fait le récit il arrive quand même à découler malgré en fait ce langage qu'on n'arrive pas à capter.
Et ça c'était parce que c'est aussi là où j'ai découvert que l'économie était quelque chose, un monde, et que c'était poétique aussi quand on était précis dans l'économie. Mais qu'est-ce que ça veut dire économie? C'est incroyable, personne n'en parle. Mais l'économie en fait c'est juste que les humains il y a des milliers d'années en avaient marre de se dire ah non ça vaut ça.
Ouais, le troc.
Machin, voilà. Et du coup, on a créé un objet de transfert et pour faire l'économie du temps de cerveau et en fait l'économie de négociation. Et tout ça pour dire quoi? Et oui. Et ce que je dis dans Total, grosso modo, c'est et là les gens, des fois, je me rends compte, ont pas réussi à comprendre ça. Mais c'est le gros problème, c'est quand l'objet transactionnel devient le but. C'est la fin.
Ouais.
Voilà. Et
Dorel, il le dit lui-même.
Cool. Je me souvenais pas que j'avais mis.
C'est au début, il explique pourquoi il fait tout ça en fait.
Et c'est quelque chose dont tu as déjà parlé à droite à gauche. C'est que pour toi, l'équilibre financier pour te permettre d'être libre et de faire tous tes projets, c'est important. On peut pas faire des projets si on n'a pas pris le temps de mettre son nez dans des choses peut-être moins sexy, mais pour nous permettre d'être libre, quoi.
Bah, il faut avoir des outils dans ta, tu vois, si tu veux mettre un clou sur ton mur pour mettre un, bah, il faut que t'aies un marteau et il faut que t'aies un clou. Donc, en fait, le plus plus ta boîte à outils est pleine, si t'as une visseuse, bah, ça va encore plus vite. Et donc, en fait, mine de rien, bah, les moyens de créer, c'est quand même important et il faut pas les nier. Et c'est vrai qu'à l'école, on nous l'apprend pas trop. On nous apprend plutôt à être des, à moins, tu vois, il y a un idéal de l'artiste qui est.
Du concept, je le redis.
Ouais, et puis, et donc voilà. Moi, je me dis, non, aussi se poser des questions de comment parce que après quand tu sors de l'école tu te rends compte que bah si tu veux faire ça peut-être qu'il va falloir que tu aies un peu d'aide, donc il va falloir que tu payes quelqu'un, donc il va falloir que tu en fait il faut comprendre que bah on est pris et puis tu vas pas dire à l'autre fais-le moi gratos, tu voudrais pas le faire gratos. Enfin, bref, donc, du coup en fait au fur et à mesure se tisse un maillage qui est hyper important, qui est le maillage social économique, et pour respecter l'autre il faut aussi pouvoir d'abord voilà, enfin c'est que des chaînes quoi.
Tout est connecté. Everything is connected. C'est notre petite tagline sur Sens Créatif. On est très.
Là, tu m'étonnes.
C'est ouais.
pour terminer. Oui, autre chose, c'était en fait, c'est pour revenir sur on se ment, on se fait des mensonges et tout, et c'est que pour créer, je pense qu'il faut il faut respecter son idée, mais pas se respecter soi-même. Enfin, il y a un truc comme ça.
Attends, faut que tu développes là.
Faut
savoir que bon bah t'es comme tout le monde, faut pas se prendre pour un fou quoi. Faut se dire tu es ce que t'es, c'est-à-dire pas grand chose. Et de temps en temps t'as une idée qui te plaît, qui t'as des connexions de choses et ça faut le respecter. Et ça il faut l'emmener jusqu'au bout du meilleur moyen.
Tu parlais, alors c'est génial ce que tu dis, parce que tu parlais aussi de la différence entre originalité et singularité, c'est-à-dire que l'originalité, mais il y a pas tes personnages aussi en parlent, mais justement le fait de chercher à être original, c'est une espèce de quête un peu vaine, alors que le fait d'être singulier en fait c'est à la portée de n'importe qui. Mais encore une fois, faut avoir les antennes.
Faut accepter sa singularité aussi. Et parfois c'est ça qui est un petit peu compliqué à titre individuel.
Mais en fait, on est tous passés par là quand on était adolescent. On a tous eu des complexes immenses. On a tous eu des et le passage de l'adolescence, c'est le moment où normalement t'apprends à vivre avec ce que tu n'es pas et à comprendre ce que tu es et à assumer ce que tu es. Et voilà. Et dans les récits, c'est souvent parce que souvent on prend le truc par le mauvais côté. C'est on se dit ah il faut que tu trouves une idée originale. Il y a rien d'original. Il y a absolument rien d'original parce que on pense tous à peu près aux mêmes choses au même moment parce que on est traversé grosso modo aujourd'hui justement par la mondialisation, par les mêmes choses, par les mêmes.
On partage l'histoire de l'humanité tous ensemble.
Voilà. Par contre, il y a quelque chose, c'est la précision, c'est la spécificité, c'est quelque chose qui justement n'appartient qu'à toi et qui en fait que tu vas donner et qui va être l'objet de désir à l'humanité. Et ça, c'est quelque chose de très spécifique. Encore une fois, c'est ce truc spécifique qui va devenir qui peut faire universel en tout cas.
Il y a une citation d'un graphiste américain qui s'appelle Paul Rand qui m'a énormément influencé déjà graphiquement, mais ensuite dans sa manière de voir le travail. Il disait "Don't try to be original, just try to be good." Et je trouve que cette phrase, elle dégomme tout parce qu'il y a vraiment en effet cette petite tentation de comment je peux me démarquer, c'est quoi ce qui te rend différent. Et c'est important de trouver aussi ça, mais que c'est pas la finalité au final. Don't try to be original, just try to be good. C'est déjà énorme en fait, et ça revient à ce que tu disais au niveau de la précision, la fidélité au craft, en mode sniper. Quoi.
Et en fait, good, c'est juste, moi, ça, être bon, c'est juste avoir réussi à accepter ça, qu'en fait j'étais fait de certaines choses et qui n'étaient pas le cas d'autres gens. Et que c'était ça qui faisait que peut-être je pouvais être bon si je travaille par le travail quoi. Mais en fait moi quand j'étais étudiant je le dis souvent mais mes profs ils disaient que j'avais un trait frigide et tout et du coup j'étais là j'avais pas le droit d'exercer ça parce que j'étais considéré comme par ceux qui me précédaient comme pas bon et en fait ça m'a pris du temps à assumer ce que j'étais et ce que je n'étais pas. Et je pense que c'est ce moment là où tu deviens bon et surtout tu deviens bon parce que c'est ce moment là quand tu sais précisément de quoi tu es fait, c'est ce moment-là où tu n'as plus de questions à te poser, où tu n'as plus de justification à donner. C'est toi. Donc, voilà.
T'as des exemples de déclics comme ça je te donne juste une mini illustration. Petit jeu de mots. Quand j'étais plus jeune, j'étais assez complexé du fait que je sois bavard. Et on me le faisait tout le temps remarquer. Qu'est-ce que t'es bavard, Jérémy? Et il y a quelques années, il y a un moment donné, je me suis dit, fuck it, je suis bavard, so what? Et en fait, je venais de commencer à faire du podcast. Et j'étais genre, en fait, c'est une évidence. Si j'étais pas bavard, j'aurais pas fait un podcast, tu vois. Donc, c'est juste un petit exemple. Est-ce que toi, parce que ça taraude tout le monde, le fait de s'assumer, d'assumer ce qu'on n'est pas. Est-ce que t'as eu des petits moments comme ça, des petites épiphanies, sur lesquelles tu peux remettre le doigt et que tu te dis, là, je me suis rendu compte que, et ça t'a amené sur le chemin là où tu en es aujourd'hui?
Dans ma vie privée, je sais pas précisément, c'est à l'adolescence, parce que des petits trucs, mais pour le coup, dans le dessin, ça a vraiment été le moment où j'ai fait, c'était Fog, c'était le clip que j'ai fait pour Jabberwocky.
Ah oui,
et où je me suis dit, vas-y, en fait, je vais mettre des couleurs que j'aime, je vais le faire avec le trait que j'aime, et en fait, je vais assumer ma part de kitsch, je vais assumer ma part de mauvais goût, je vais assumer ce que j'aime moi, je vais me faire plaisir en faisant quelque chose. Je vais pas essayer d'y aller avec le doigt en l'air et comme ça en mode snob comme je pouvais le faire avant, parce que c'est comme ça qu'on m'avait enseigné qu'il fallait être élégant, fallait être machin, et en fait non, l'élégance c'est quelque chose qui se redéfinit, tout se redéfinit. Karl Lagerfeld disait quelque chose, il disait tu vois cette fille, la personne l'avait vue, c'est moi qui ai décidé qu'elle était belle. C'est ça, en fait c'est ça, nous notre rôle d'artiste c'est de montrer que ça c'est beau, c'est de sortir quelque chose d'infinitésimal du réel et de le valoriser, de lui donner son existence.
Ouais, c'est intéressant. Notamment, j'ai été voir tes courts-métrages Maman et Je t'aime, qui s'inscrivent dans le cadre de tes études. Entend bien, donc ça remonte sacrément. Mais je retrouvais pas le Hugo Bienvenu que je connais aujourd'hui, et avec Jabberwocky, en effet, ce clip formidable qu'on vous invite tous à aller voir, Fog, qui faut quand même s'accrocher, mais qui qu'il y a toute la matrice de qui tu es dans ton langage graphique.
Ah, on peut dire que Fog il pose les bases, c'est clair.
Enfin, c'est en tout cas mon impression.
Mais tu vois, ça faisait déjà 4 ans que j'étais sorti de l'école, mais ça m'a pris du temps parce que ça m'a pris du temps de me débarrasser d'avoir le droit de faire les choses. J'avais l'impression de pas avoir le droit.
C'est super important ce que tu dis. Ouais, super important. C'est vrai que c'est les valoches en fait qu'on nous colle sur le dos qui sont pas les nôtres et que du coup il faut apprendre à s'en défaire pour justement de devenir qui on est vraiment quoi.
Ouais. Après c'est peut-être aussi ça, je vois des fois le rôle de nos enseignants. Peut-être que moi ils m'ont tellement frustré qui m'ont permis ça, je sais pas, il doit y avoir quelque chose de bénéfique là-dedans.
Ça fait partie de l'inconscient, ouais, totalement, c'est ça.
On a toujours besoin de se révolter contre quelqu'un, et mieux vaut se révolter au final contre ses profs, quoi, parce que quelque part ça génère la frustration chez l'étudiant pour qu'il donne tout.
Ouais, c'est clair. Après moi c'est vrai que quand je suis prof j'essaie de faire l'inverse, j'essaie plutôt de valoriser, de leur dire tout est possible, mais donnez-vous les moyens, quoi.
Ouais, ah oui, c'est hyper clé. Oui, c'est vrai, tu enseignes aussi.
Oui, tu fais toute la boucle de la transmission finalement. Donc,
c'est vrai. Ah, c'est vrai,
Oui, évidemment, bien sûr.
Tout est lié. Alors sur la petite note un peu plus légère de fin d'entretien, qu'est-ce que je raconte ? Interview, discussion, très très intéressante d'ailleurs. Tu lui as annoncé il y a quelques jours sur Instagram que tu as terminé ta prochaine bande dessinée intitulée Le Journal de Mickey. Vu que je suis tellement familier, j'ai été obligé pour préparer cette vidéo de me familiariser à mort avec ton travail. Bon, Mickey pour moi c'est le robot. Et puis après je me suis dit Journal de Mickey, mais c'est Journal de Mickey. Enfin, il y a un petit jeu là et qui sonne comme une évidence. Hein. Et voilà, est-ce que tu peux un petit peu nous en parler vu que c'est un petit peu ça vient tout juste, tu viens tout juste de le finir.
Bah alors le Journal de Mickey à la base, je voulais vraiment faire un journal avec plein d'autres gens. J'avais un peu lancé le projet chez Realist, je voulais faire un petit journal tout petit, tout carré. Et sauf que chez Realist, on n'a pas une économie, donc j'avais dit aux gens. Bah, si ça vous dit de venir jouer, et puis on redistribuera les ventes. Mais tous les copains et tous les gens qui sont ici ont été extrêmement bookés depuis un an et demi. Et donc, on n'a pas eu le temps de le faire. Et en fait, le titre me plaisait bien. Et Jean-Luc Romental m'a appelé il y a un peu moins d'un an, mais en me disant, c'est les 20 ans de Noël Graphique et j'aimerais faire un cadeau aux gens qui nous suivent et aux gens qui achètent nos livres. Et donc, pour deux livres de Noël achetés, on offrira le Journal de Mickey et on offrira un livre que je te commande, quoi, en gros. Et moi, je lui ai dit, écoute, je savais pas du tout quoi raconter, et puis il fallait faire 40 pages, en gros. Et donc, je voyais pas. Et puis, ma fille avait un an, et j'arrivais que à la dessiner elle, et puis, je prenais des notes sur, je sais, d'être papa, genre. Et je lui ai dit, écoute, ça m'intéresserait de faire un livre, sur les 20 ans de Noël pour ma fille quand elle aura 20 ans, quoi. Donc c'est une sorte et en plus j'ai utilisé ses dessins à elle dans le livre qui vont venir donc c'est un livre un peu à quatre mains avec ma fille qui a 20 mois et j'ai essayé de faire une sorte de somme de ce qu'elle m'a déjà appris de ce qu'on c'est un livre très très doux.
Là, ça s'annonce très beau, ouais.
Puis ça touche à l'intime aussi, c'est...
Ouais, à l'intime, et justement, je me suis rendu compte, parce qu'au début, je me suis dit, ça va concerner personne, ma relation avec ma fille. Et en fait, je me suis rendu compte, encore une fois, que le précis mène au général, et en fait, je parle que de l'humanité, ça parle que encore une fois, de la transmission, et pour le coup, de la transmission, là, qui va dans l'autre sens, en fait, c'est que ce dont on se rend compte, c'est que, ce petit être qui vient du cosmos nous apprend beaucoup, nous renseigne beaucoup plus sur nous-mêmes que nous, que nous sur lui, quoi. Voilà. Et donc, c'est la reconfiguration d'un robot par un petit bébé.
Génial.
Oui. Tout est lié.
On passe aux questions, Jérémy?
Ouais, c'est ça. Hugo est encore avec nous dans quelques minutes. Donc, si vous avez des questions brûlantes, n'hésitez pas à les poser dans le chat.
J'avoue que j'avais pas l'œil sur le chat de trop. Donc, si vous avez posé des super questions, copiez-coller et reposez-les right now. Et puis, on en avait de côté.
Ouais, tout à fait. On en a une. Alors, on a une question de Kevin de Neuchâtel qui dit « Comment fait-il pour gérer son temps ?» Entre le studio d'animation, ses illustrations pour la presse, ses projets de bande dessinée et son travail d'éditeur chez les éditions réalistes, ses enfants, sa femme, et toujours être aussi créatif, à part le clonage, je ne vois pas.
C'est pour ça aussi que j'avais créé le clone, que Kurt se clonait dans la deuxième partie de la vidéo. Très honnêtement, des fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est en 2019, je ne sais pas comment j'ai fait. Je ne comprends pas. Il y a eu une... Je ne comprends pas. Et sinon, juste, j'essaye de prendre des choses dans l'ordre et surtout... Et je crois que c'est ça ce que je disais sur le désir et sur le, c'est qu'en fait je fais les choses quand je sens qu'il faut que je les fasse. J'essaie pas trop de les forcer. Quand je force, en général, je vais très lentement. Donc en fait, j'attends que le besoin soit là. Et donc c'est souvent, je fais pas les choses parce qu'on me demande de les faire ou parce que je dois les faire. Je les fais parce que le moment est venu de les faire. Voilà, parce que pour moi, il y a un truc qui s'est débloqué et je sais que là, je peux le faire en très rapidement. Alors que si je le force, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc en fait, par exemple, préférence système, je le faisais en même temps que plein d'autres trucs. Mais il y a plein de moments où je savais que j'avais un peu de temps, mais j'y arrivais pas. Donc j'attendais juste d'avoir l'envie et d'avoir voilà.
Ça demande j'ai l'impression, une grande connaissance de soi et d'autodiscipline. Parce que il pourrait y avoir une tendance, notamment chez moi, par exemple, du devoir. Tu sais, même ce côté un peu capitaliste de il faut que chaque minute serve à quelque chose. Et là, j'ai du temps, je serais censé avancer là-dessus, même si je le sens pas. Et en fait, évidemment, du coup, le résultat est pas ouf parce qu'en fait, on est en train de se forcer à faire quelque chose. Et comment, Est-ce que tu arrives bien à naviguer entre tout le temps d'être là, c'est pas le moment, là, c'est pas le moment, là, c'est le moment.
Bah, c'est le, ce qui est compliqué, c'est que la boîte, elle a son rythme et que les boîtes d'ailleurs ont son rythme et que des fois, c'est pas le mien. Donc là, c'est très compliqué, c'est très douloureux. Mais par contre, dans la création, j'essaie vraiment de faire les choses. Par exemple, là tout à l'heure, je devais faire autre chose, j'y arrivais pas. Donc je me suis dit, putain, il manque un truc, il fallait que je dessine un véhicule pour le film. Bah, j'ai fait le véhicule, il est tombé en 3 minutes. Alors que si on m'avait dit il faut faire le véhicule, c'est un exemple à la con. Hein. Mais si j'avais dû faire le véhicule il y a une semaine, il m'aurait pris une journée. Quoi. Donc vraiment, faut voilà. Et puis des fois, t'es obligé de faire un truc, mais vraiment, j'essaie de faire le. Je pense que c'est ça qui me permet de gagner beaucoup de temps, c'est que je fais les choses. Et c'est compliqué pour les gens qui travaillent avec moi. C'est que ils doivent suivre un peu ce tempo-là de, bah, là, tu l'auras plus tard, parce que là, je sais que si je le fais maintenant, ça va enchaîner un effet boule de neige. Et pour ça, mon associé est bien parce qu'il structure quand même. Il est là pour m'aider des fois à faire des choses quand j'ai vraiment pas envie de les faire et pour les accélérer. Et aussi pour protéger des fois. Et c'est ça aussi, c'est par exemple typiquement sur la maison d'édition et sur la boîte de prod, j'ai quand même des associés qui sont admirables.
De l'importance de bien s'entourer. On revient à ce que tu disais tout au début. Cool. Bon, ben ça me semble. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait une question sur l'intelligence artificielle, mais on en a déjà parlé. Donc,
non, ce qu'on peut dire sur le truc, c'est que sur ChatGPT et sur les autres trucs, c'est que en fait. Là, pour l'instant, on se dit ah c'est chaud, on est mis en concurrence avec l'intelligence artificielle. Moi, je pense que c'est pas le problème absolu. Le problème absolu, c'est que à terme, en gros, il y aura des choses qui seront robot made et human made, que le human made ne sera accessible que par une élite. Et donc en fait, ça va créer deux humanités, une humanité qui consomme que du robot made, qui est habillée en robot made, qui consomme des récits faits par des robots qui ne s'adressent pas en fait à notre humanité, et ceux qui pourront se payer l'humanité. Et dans un troisième temps, et ça pour moi c'est le pire, c'est l'infusion de notre inconscient par un imaginaire qui n'est pas le nôtre.
Voilà. Ouais, qui va modifier en fait l'inconscient collectif humain qu'on a depuis des millénaires, et ils vont l'effacer et le remplacer par autre chose.
Qui va le teinter.
Ouais. C'est beau, hein, terminer sur une note comme ça. Hein.
Ah ouais, c'est. On apprécie ça, c'est, journée. C'est tout l'art de l'interview aussi, c'est trouver le moment où c'est genre. Okay. Là, c'est bon.
Là, c'est bon.
Cut, là, c'est bon, c'est parfait. Bah, un grand, grand merci, Hugo.
C'était non, merci à vous.
C'est top. On a quand même des personnes dans le chat qui nous ont dit que c'était un des meilleurs, si pas le meilleur, de Sens Créatif.
Ah, hein, ils étaient scotchés, quoi, vraiment.
Donc, ah bah, merci.
C'est aussi tout l'art du ping-pong, tu vois, genre les sujets. On savait que les sujets que t'aimais bien aborder, c'était un peu notre cam. Et donc du coup, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci d'ailleurs, à vous encore. C'est bien qu'il existe des endroits comme ça.
Avec grand merci. Plaisir.
On va se retrouver dans un mois. D'ailleurs, tu le sais peut-être pas, Hugo, mais on se retrouve au festival Nîmes Illustre. Et il me semble que tu y seras. Ouais. Et on organisera d'ailleurs un enregistrement en public du podcast comme chaque année depuis 3 ans. Et donc du coup, ce sera l'occasion de te revoir.
Génial.
Merci à tous, à toutes et à toutes d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, on vous donne rendez-vous dans une semaine pour le grand retour du Boxon Créatif by Laurent himself, le premier de cette nouvelle saison. C'était un épisode spécial qu'on faisait l'année dernière. On n'en a pas encore fait cette année, donc semaine prochaine. Dans 2 semaines, pour les membres du Patate Club, a.k.a. les personnes qui nous soutiennent sur Patreon et Tipeee, encore merci. On se retrouve en compagnie de Fred Benaglia, qui est directeur artistique chez Bayard Jeunesse et qui viendra répondre à toutes vos questions.
Alors aussi ailleurs, c'est 25 années d'illustration aussi.
Ouais, vous connaissez depuis longtemps, hein, Laurent, toi et lui. Donc ça se passera ailleurs que sur Twitch, mais si vous êtes membre du Pâté Club, vous le savez. Attention, les dates ont été inversées, contrairement à ce qui a été annoncé si vous l'avez écouté, le Radio Patate de la semaine dernière. Hugo, il va se dire, mais c'est quoi cette histoire de patate et compagnie?
Ça
fait partie du folklore du podcast. Donc, la semaine prochaine, c'est public, c'est pour tout le monde, c'est sur Twitch, et dans 2 semaines, c'est pour les membres du Patate Club. Encore un grand merci, Hugo, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Et sur ce, on vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.
Bye bye.
Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées.
N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon ou Tipeee. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux.
Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast.
Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif-podcast.
Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message.
Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.
En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas,
Everything is connected!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.